Le prophète Ésaïe.
Le ministère du prophète Ésaïe a duré près de 60 ans. Le premier verset de son livre nous situe quant à l'époque.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda.
Ésaïe a donc parlé de la part de Dieu environ de 760 à 700 avant Jésus-Christ. Ozias, le premier des rois de Juda mentionné en Ésaïe 1:1, était intègre au début de son règne. Mais lorsqu'il est devenu puissant, l'orgueil s'est emparé de lui. Par prétention, il est entré dans le temple pour y offrir des parfums, ce qui était réservé exclusivement aux sacrificateurs. Aussi l'Éternel l'a-t-il frappé de lèpre, c'est 2 Chroniques 26 qui nous rapporte ce récit. Puis, son fils Jotham a occupé le trône de Juda. Pendant son règne, le roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du nord, et le roi de Syrie se sont ligués pour l'attaquer et assiéger Jérusalem, mais sans succès. Les chapitres 7 à 9 d'Ésaïe relatent ces événements. Après Jotham, Akaz. Il a recherché les faveurs du roi d'Assyrie et a laissé l'idolâtrie s'installer à Jérusalem, allant jusqu'à élever un autel païen en plein temple de l'Éternel, en s'inspirant du modèle qu'il avait vu à Damas, 2 Rois 16. Mais avec Ézéchias, son fils, les choses changent. Au premier mois de son règne, Ézéchias entre dans la maison de l'Éternel pour la réparer, il purifie le temple, rétablit le culte à l'Éternel, et un véritable réveil s'empare de la nation qui revient à son Dieu. Il était temps. Sanchérib, roi d'Assyrie, menace Jérusalem. Ézéchias devient alors l'âme de la résistance. Il consulte Ésaïe le prophète et ensemble, ils adressent de ferventes prières à Dieu qui les exauce de façon spectaculaire. L'armée assyrienne est anéantie par un cataclysme foudroyant et le roi d'Assyrie doit s'en retourner dans son pays où il est assassiné par ses propres fils. Cependant, si la puissance politique de l'Assyrie décline, il en est une autre qui monte, celle de Babylone. Elle envoie une délégation à Jérusalem féliciter Ézéchias de ses succès. Pour Ésaïe, ce sera l'occasion de faire connaître à Juda la sombre perspective de la captivité à Babylone qui surviendra un peu plus d'un siècle plus tard. Pourquoi évoquer ici les circonstances historiques de ces quatre règnes successifs? Pour que nous comprenions mieux la richesse et la variété des écrits d'Ésaïe. Il s'est adressé à Juda, chapitre 1 à 12, et aux nations environnantes, chapitre 13 à 27. Il a annoncé l'avenir d'Israël, chapitre 28 à 35. Puis, après la parenthèse historique consacrée au règne d'Ézéchias, chapitre 36 à 39, il a présenté le Messie dans ses souffrances et dans sa gloire future, chapitre 40 à 66. Il est possible qu'Ésaïe ait encore été le témoin de la profonde déchéance qui a caractérisé le règne de Manassé, ce fils indigne d'Ézéchias, qui a entraîné Juda dans l'abandon de Dieu et dans l'idolâtrie. Manassé a aussi persécuté les envoyés de Dieu. La tradition juive prétend qu'il aurait même fait subir le martyre à Ésaïe. Il l'aurait enseveli vivant dans un tronc d'arbre où son corps aurait été scié en deux. Aucun texte de l'Ancien Testament ne confirme ce fait, mais une phrase de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, pourrait se référer à cet horrible supplice. Ésaïe a connu la souffrance, et c'est sans doute parce qu'il a souffert lui-même qu'il a eu révélation des souffrances de Christ et qu'il a pu les décrire avec tant de précision. Au cours de son ministère long et mouvementé, les circonstances l'ont identifié lui-même à l'opprobre, au rejet et au tourment de Jésus-Christ, l'homme de douleur. C'est ainsi qu'il a pu préparer le peuple juif à la venue du serviteur souffrant. C'est d'ailleurs le thème essentiel de plusieurs de ses prophéties, et en particulier de ce merveilleux chapitre 53 auquel nous reviendrons tout à l'heure. Pour Ésaïe, la révélation du Fils de Dieu éclipse toute autre considération. Ainsi, le bouleversement militaire du temps de Jotham lui fournit l'occasion de prédire la naissance miraculeuse du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge.
Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ».
Ésaïe 7, 14. Plus loin, il reprend le thème de la naissance de Christ.
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. »
Pour décrire ce que sera ce fils lorsqu'il règnera ici-bas.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Ésaïe 9, 5 à 6. Au premier verset du chapitre 32, Ésaïe annonce le règne messianique en ces termes.
« Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. »
Mais c'est surtout dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, chapitre 40 à 66, que les prophéties au sujet de Jésus-Christ sont les plus nombreuses. Il sera sauveur, 41-14, serviteur de l'Éternel, 42-1, rédempteur, 49-26, consolateur, 51-12, homme de douleur, 53-3, agneau muet, 53-7, dominateur des peuples, 55-4. Ésaïe a très souvent parlé de Christ, mais il a aussi annoncé l'avenir d'Israël et des nations. Il a même prédit que Dieu susciterait un homme appelé Cyrus qui ordonnerait la reconstruction de Jérusalem et du Temple, chapitres 44 et 45. Prophétie extraordinaire si l'on songe que ce Cyrus, empereur perse, est entré dans l'histoire 150 ans après la mort d'Ésaïe. Il est vrai que certains critiques n'ont pu admettre qu'Ésaïe ait annoncé le nom même de Cyrus plus d'un siècle avant sa naissance. Et ils en ont déduit que la seconde partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 66, ont dû être rédigés par un ou plusieurs écrivains portant peut-être le nom d'Ésaïe, mais ayant vécu après l'exil. Et c'est ainsi qu'est née la légende des différents Ésaïe. Mais n'était-ce pas se méprendre sur un fait essentiel ? Les écrivains sacrés étaient au bénéfice de l'inspiration divine. Or, il n'était pas plus difficile au Saint-Esprit de communiquer à Ésaïe le nom de Cyrus, plus de 150 ans avant sa naissance, que de lui révéler les souffrances que Christ a endurées 6 siècles plus tard. Rangeons-nous donc sans hésiter au point de vue du Fils de Dieu et des apôtres, pour qui, de toute évidence, il n'y avait qu'un seul Ésaïe. Le Nouveau Testament cite souvent Ésaïe, et, dans son évangile, l'apôtre Jean relève 2 passages du prophète, l'un tiré du chapitre 6, l'autre du chapitre 53, puis il montre que les 2 passages sont sortis de la plume d'un seul et même auteur, en ajoutant
« Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Christ et qu'il parla de lui. »
Pour terminer ce bref aperçu du livre d'Ésaïe, j'aimerais que nous revenions ensemble au chapitre 53 déjà cité. Le prophète y présente le serviteur souffrant, le Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver.
Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
Puis il a prophétisé l'accueil que l'humanité réserverait à Jésus-Christ.
Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Ésaïe a dévoilé ensuite le caractère expiatoire des souffrances de Christ et de sa mort.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche.
Enfin, le prophète a entrevu par la foi ce qui devait découler de la croix du calvaire, la résurrection de Christ et le triomphe qui en est la conséquence.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants.
Ces instants sont trop courts pour nous permettre de lire en entier ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe. Mais vous avez probablement une Bible. Ouvrez-la donc à ce passage, lisez-le, méditez-le, puis placez-vous vous-même dans le récit.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Comment un châtiment peut-il donner la paix? Parce que Christ a été puni, je ne serai pas puni. De ce fait, ce châtiment subi par Christ devient le moyen de me donner, de vous donner, la paix. La paix parce que Christ a pleinement satisfait la justice divine. La paix parce que Christ nous offre le pardon. La paix parce que Christ nous réconcilie avec Dieu. La paix parce que Dieu fait naître la vie éternelle dans le cœur du coupable dès l'instant où il accepte son salut. Et cette paix véritable est une certitude que vous communique Ésaïe. Je pourrais même dire que vous communique l'Évangile selon Ésaïe, rédigé il y a 26 siècles. Voulez-vous croire cela, tout simplement ?